toi et puisse grandir en sagesse, en esprit, en intelligence devant leurs parents et devant le monde, et qu'ils puissent eux aussi suivre le véritable maître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Je voudrais partager avec vous ces béatitudes du Père que j'ai trouvées. Bienheureux le Père qui voit grandir ses enfants, car ce temps ne reviendra jamais. Bienheureux le Père qui sait dire les paroles d'encouragement et de tendresse, car elles sont pour l'enfant irremplaçables. Bienheureux le Père qui sait reconnaître ses torts devant ses enfants, car il lui apprend la beauté du pardon. Bienheureux le Père qui sait aimer sagement en disant oui et non en temps opportun, car l'amour du ciel change de couleur. Bien-aimé le Père qui sait s'asseoir près de Dieu pour l'écouter et l'accueillir, car il puise à la source de toute paternité. Bienheureux le Père qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles traditions, car c'est cela le véritable héritage. Bienheureux le Père qui sait gagner le respect et l'amitié de ses enfants, car il connaît le bonheur de Dieu. À tous les pères, courage. À tous les pères, patience. À tous les pères, félicitations. Pour continuer votre journée de pèlerinage, vous avez tout à l'heure à 16h15 le message de Lourdes donné par un chapelain des sanctuaires. À 17h, comme il se prépare justement derrière vous, la procession eucharistique, et à 21h, la procession mariale au flambeau. Bon pèlerinage, bonne fête des pères et que le Seigneur nous bénisse.
Amen.
Vous écoutez KTO Radio. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une soirée de la rédaction autour de la liturgie avec cette formulation un peu provocatrice. La liturgie, une passion française. C'est un peu provocateur parce qu'on sait qu'en France, les discussions s'enflamment rapidement quand on parle de liturgie avec souvent des avis définitifs au terme de l'échange. Je vous propose, dans cette émission, d'aborder le sujet sur le fond. Comment l'Église a-t-elle donné forme avec sagesse à une liturgie qui permette aux fidèles de s'approcher du mystère de Dieu? Comment les jeunes générations, les plus jeunes générations, prêtres et laïcs, vivent cette célébration, ces célébrations? Pourquoi l'art célébrandi, l'art de célébrer est une question centrale pour eux? Et puis on a aussi en tête les préoccupations actuelles. En quoi sont-elles différentes d'il y a 50 ans? Pour en parler, nous avons invité Christophe Geffroy, rédacteur en chef de la revue La Nef. Merci beaucoup d'être là, Christophe. Dont Jean-Vincent Giraud, abbé de l'abbaye bénédictine Sainte-Anne de Kergonan en Bretagne. Merci d'être venu de Bretagne. Et puis, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être là. En guise d'introduction à notre échange, je relève un point intéressant dans l'annonce faite de cette émission. J'ai précisé que nous n'aborderions pas cette question sous l'angle de la querelle liturgique, de l'usage des missels de l'ancienne forme du rite romain ou de l'actuelle. Et pourtant, nous avons été saisis de très nombreuses questions sur le sujet. Peut-être une réaction
Bah écoutez, Christophe. Ça me semble relativement normal, d'abord parce que c'est une question très médiatisée, donc il est normal que les gens réagissent à ça, et puis c'est une question qui touche au cœur la vie de pratiquants de nombre de fidèles catholiques, donc il est assez légitime que cette question sur la liturgie interpelle sans doute plus que des questions plus profondes d'histoire, de la liturgie, d'art célébrandi, toutes choses que les gens en fait voient d'assez loin, ne maîtrisent pas forcément, et alors que ce qu'ils vivent au quotidien, c'est la messe où ils vont, dans une forme ou dans une autre, mais c'est ça qui les fait vivre. Donc il est assez logique, d'une certaine façon, que cette question soit une question qui occupe les esprits.
Mmh. Don Giraud.
C'est sûr que cette question occupe les esprits, mais c'est bien aussi d'avoir l'occasion de pouvoir élever un peu le regard et sortir de ces débats qui, malheureusement, ne construisent pas, n'édifient pas beaucoup l'Église, mais de regarder les choses de plus haut, de voir vraiment cette liturgie comme l'œuvre de Dieu, du Christ et de l'Église. Donc ça me paraît très important.
Monsieur Lebrun.
Merci de nous inviter, merci de nous dire à la fois qu'on ne va pas en parler, puis de dire un petit mot quand même dessus, mais vous avez raison, moi j'aime beaucoup les livres liturgiques, mais ils disent trop peu d'une certaine manière. Il y a un mystère, il y a une action, il y a des cœurs qui s'unissent, il y a une église en prière, et ça vaut le coup d'en parler, mais peut-être aussi de méditer et de contempler cette église en prière au long de l'histoire, aujourd'hui, et qu'elle le sera demain.
Quand on parle de liturgie, qu'est-ce que cela veut dire ?
La liturgie, c'est une action du peuple. Hein. Il y a plusieurs possibilités d'interpréter l'origine étymologique, mais l'éthos, c'est le peuple, l'urgie, c'est l'action, c'est le travail. Vous avez dit l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ, l'œuvre de l'Église. Voilà, c'est une action, c'est une œuvre.
Un service du peuple et en faveur du peuple. Et Benoît XVI, dans une catéchèse de 2012, du 26 septembre 2012, rappelait justement que c'est ce service du peuple, mais pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu, qui n'est pas un peuple qu'on trouverait dans la nature, un peuple lié par les liens du sang, mais au contraire, un peuple réuni par le sang du Christ, un peuple constitué par Dieu à partir de la mort et de la résurrection de son Fils.
Et concrètement, c'est à quel moment que l'on célèbre cette liturgie, parce que beaucoup ont en tête la messe, l'Eucharistie.
La messe, évidemment, le cœur, le centre, la source et le sommet de toute la vie de l'Église, et donc aussi de toute la liturgie. La Constitution Sacrosanctum Concilium le dit bien, l'Eucharistie est la source, et le sommet est la source de toute la liturgie.
Parce que c'est conciliaire de Vatican.
De Vatican II, exactement. Et donc c'est en fait de là que tout découle, parce que c'est là que nous est rendu présent ce mystère qui sauve le monde entier. Donc à la fois la liturgie le rappelle, le commémore et le rend présent, l'actualise, nous en donne aussi les grâces pour aujourd'hui et nous annonce aussi sa réalisation finale dans l'eschatologie, au banquet des noces de l'agneau. Donc l'Eucharistie est vraiment le centre de tout découle et ensuite les autres sacrements, la liturgie des heures sont là aussi pour rendre présent tout au long dans les différents aspects de la vie et puis aussi tout au long de la journée, même de la nuit, ce cantique de louange qui est adressé à Dieu et qui sanctifie les hommes.
Monseigneur Lebrun.
Il arrive qu'on parle de liturgie, de paraliturgie, et ça montre que les frontières sont plus souples qu'on pourrait le penser. De fait, voilà, quand on va dans une abbaye, on chante l'office, de l'aude, des vêpres, si on y va le dimanche, une certaine solennité. Mais il y a aussi le prêtre un peu âgé ou l'évêque trop pressé qui prend son bréviaire et puis qui prie les vêpres. Il ne la prie pas tout seul, il ne peut pas le prier tout seul. Il le prie en communion avec tous ceux qu'il prie. Et voilà, donc les formes et l'ensemble, c'est l'Église en prière. Pour moi, c'est un peu l'Église en prière, selon la règle de la foi. Hein, mais c'est l'Église en prière qui prend des formes très, très différentes.
Je voudrais soulever un premier point d'étonnement. C'est qu'aujourd'hui, nombre de personnes qui aspirent à devenir chrétiens poussent la porte d'une Église, et en particulier au moment de la messe. Et ça leur parle, ça les touche, puisque avant même que certains deviennent catéchumènes, eh bien, ils sont déjà des participants à l'Eucharistie. Alors même qu'on a entendu, et Christophe, je voudrais vous faire réagir là-dessus, on a longtemps entendu, non mais tu sais, la messe c'est trop compliqué, il faut simplifier, il faut rendre plus accessible, et là des non-chrétiens, dans une culture qui est celle de la France, qui s'éloigne de la culture chrétienne, eh bien ça leur parle. La liturgie rend Dieu plus accessible qu'on ne le pense ?
Oui, à mon avis, c'est même quelque chose d'absolument fondamental, parce que quand on parle d'ailleurs de liturgie, il y a une petite ambiguïté sur le terme, parce que la liturgie, ce n'est pas que la messe. Et souvent, quand on parle de liturgie, pour le commun des mortels, on parle de la messe. Alors, c'est vrai, Don Giraud vient de le dire tout à l'heure, la messe est vraiment le cœur, de la vie du chrétien. Et la messe, elle a son origine vraiment dans l'Évangile, avec l'institution de la Sainte Cène par notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. C'est une religion de l'incarnation. C'est une religion, le christianisme, c'est pas d'abord des théories, un enseignement moral ou quoi que ce soit de similaire. Le christianisme, c'est fondamentalement la rencontre avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et ce que l'Église nous offre, qui est quelque chose, c'est Jésus qui nous l'offre, mais l'Église, grâce à l'Église, nous l'avons tous les jours. L'Eucharistie nous permet de faire cette rencontre extraordinaire. L'Eucharistie, c'est la rencontre avec l'homme-Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'incarné, c'est quelque chose de charnel, presque. Et quand on parle, quand on voit avec... je m'occupe de catéchumènes dans ma paroisse, et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que quand on leur parle de Dieu et qu'on les emmène à la messe, en réalité, dire qu'il faut que la messe soit compréhensible, c'est presque une absurdité quelque part. Parce que la messe est fondamentalement un mystère. Comment vous pouvez expliquer que le prêtre qui célèbre la messe amène Jésus sur l'autel à travers l'hostie? Comment rationnellement allez-vous expliquer à une personne que là, il lève l'hostie qui est vraiment Jésus, vrai Dieu, vrai homme? On est dans l'ordre du mystère. Et la messe, fondamentalement, c'est avant tout un mystère. Et si on ne comprend pas cet aspect qui, pour moi, est absolument central, on tend à horizontaliser les choses, à rabaisser les choses à un niveau trop humain. Et à ce moment-là, cette part de mystère, la part de sacralité qui entoure la messe, tend à s'estomper.
Monseigneur Lebrun,
Oui, alors, vous dites des choses pas différente, mais vous avez accentué sur l'idée que la messe c'est pour le peuple de Dieu, enfin que la liturgie c'est le rassemblement du peuple de Dieu, mais qui est toujours ouvert parce que le peuple de Dieu est ouvert. Et de fait, je vois dans ma cathédrale les jeunes, c'est tous les dimanches qu'il y a des nouvelles têtes que je vois venir voir, écouter. Quand je discute avec eux, c'est déjà un pas qu'ils font. Hein. D'ailleurs, on peut les appeler pré-catéchumènes, si on veut, hein. Mais pas toujours. Ils viennent voir. Ils savent que dans les églises, les chrétiens se rassemblent. Voilà. Et ça, ils viennent, c'est le premier. Et de fait, après, ils sont touchés parfois par la diversité des gens qui sont là, par le sourire de la personne voisine, par l'intensité mystérique qu'il y a dans la célébration, des choses très diverses. Mais aujourd'hui, on constate et on rend grâce à Dieu.
Don Giraud, la liturgie est plus accessible, rend plus accessible qu'on ne le pense Dieu?
Oui, certainement, puisque la liturgie, comme les sacrements, sont des signes sensibles. Et comme le disait Christophe Geffroy, nous sommes une religion de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il s'est fait chair. Et comme dit saint Jean, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu, entendu de nos oreilles, ce que nos mains ont touché, le Verbe s'est fait chair. Et aujourd'hui encore, il se rend présent, visiblement, à travers les signes sensibles. Donc, que ce soit les signes de l'Eucharistie, les saintes espèces, par exemple, donc au plus haut point, mais aussi dans le signe du prêtre, dans le signe de l'Assemblée, dans le signe de sa parole, et par ces signes sensibles qu'on entend, qu'on voit, qu'on touche, qu'on goûte, qu'on respire, qu'on sent aussi à travers
l'encens.
Voilà, Dieu se rend vraiment présent à nous et nous touche. Dans les sacrements, nous avons l'occasion d'être comme cette femme qui vient toucher le manteau de Jésus. Voilà, les sacrements sont à contact. avec nous.
Et parfois, il y a eu cette tentation, ou probablement avec plein de bonnes intentions, de simplifier et du coup d'appauvrir la liturgie. Vous parliez de ce langage, de ces actes, de ces gestes. Est-ce que paradoxalement, ça n'a pas mis à distance, ou ça ne met pas plus de distance pour ceux qui ne savent pas ce qu'on célèbre ? Donc, justement, les non-initiés.
C'est sans doute un équilibre. C'est sans doute un équilibre. Parce que, de fait, Dieu est venu parler aux hommes. Voilà. Il s'est fait homme. Et donc, il vient à la rencontre. Mais évidemment, qui m'a vu a vu le Père. Et là, on rentre dans un abîme et dans un acte de foi. Donc, à la fois, il faut que ça soit accessible. C'est accessible parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et en même temps que ça ouvre sur le mystère de la foi. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, je vois dans la manière dont aujourd'hui l'adoration, peut-être on l'a mis un peu de côté pour des raisons X, Y, Z, n'est pas aujourd'hui vécu de la même manière. Hein.
Je crois que... Qu'il y a 50 ans ?
Qu'il y a 50 ans, je pense que... Il y a 50 ans, ma grand-mère, pour elle, ça ne faisait aucun doute que Jésus était présent dans l'Eucharistie. Et même, on l'appelait à l'époque un peu le divin prisonnier du tabernacle. Bon. Et on le sortait pour le voir. Mais aujourd'hui, moi je crois que la demande d'exposition, c'est plutôt pour croire. C'est-à-dire, je vois que je ne le vois pas. Je vois que... Ben je vois quoi ? Oui, je vois Jésus, mais dans l'acte de foi. C'est pas la même démarche d'adoration, d'une certaine manière, parce que on est dans une époque sécularisée, parce qu'on est dans une époque où on est convoqué dans notre foi fondamentalement. Hein. C'est pas simplement, on est vraiment convoqué à dire je crois. On baigne pas dans une culture qui va me dire voilà, c'est évident, Jésus est présent.
C'est toute la logique du signe, pardon.
Non, allez-y.
Voilà la logique du signe qui veut qu'un signe n'est pas la réalité signifiée. Un signe est là justement, s'il y a un signe, c'est qu'il y a l'absence de cette réalité signifiée. Et au ciel, quand on aura la réalité signifiée par les sacrements donnée directement dans la vision béatifique, il n'y aura plus de sacrements.
Christophe.
Mais à propos de l'adoration, moi je suis un converti personnellement, donc comme je commence à plus être tout jeune, je commence à avoir quelques années de vie chrétienne, et j'ai pu voir une évolution que je trouve d'ailleurs extrêmement positive, c'est que quand je me suis converti, dans les années 80, il y avait relativement peu d'adoration dans les paroisses. Or, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'adoration est quelque chose qui revient très fort. Par exemple, il y a beaucoup de paroisses qui font le premier vendredi du mois une nuit entière d'adoration. C'est pas quelque chose de rare. Moi, quand je me suis converti à 25-26 ans, c'était rare, c'était pas très fréquent. Aujourd'hui, l'adoration est quelque chose qui, je trouve, revient assez fort, et ça me semble très significatif comme témoignage.
Comment vous l'expliquez ?
Mais je pense que il y a un besoin de sens. Je pense qu'on vit dans un monde extrêmement sécularisé, vous l'avez dit tout à l'heure, et en même temps, plus ce monde se sécularise, plus il perd tous ses repères, et plus les gens sont complètement déboussolés. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une des explications, elle n'épuise évidemment pas le sujet, mais la montée des baptêmes, le nombre de fidèles qui sont venus pour le carême et tout, je pense que c'est en partie dû au fait qu'on vit dans un monde en fait qui n'a plus de sens, qui fondamentalement n'a plus de sens. Et donc il y a un appel, et le christianisme, par la cohérence, on peut critiquer l'Église, dire plein de choses sur l'Église, mais l'Église est quand même la seule institution qui a une cohérence de son message, une cohérence de son anthropologie, et qui fait que, en fait, même parfois, même ceux qui ne l'aiment pas trop, quelque part, ils l'admirent quand même, parce que elle reste fidèle à ce qu'elle est, et elle tient contre vents et marées, et elle tient un discours de vérité. Et dans un monde où la notion même de vérité est complètement ridiculisée, je pense que c'est quelque chose qui touche les âmes, qui touche les gens. Et moi, je pense qu'il y a un vrai mouvement qui se produit, de même que, je parlais de l'adoration, mais on pourrait aussi parler, je trouve que toute la jeune génération des prêtres que l'on voit aujourd'hui ont un sens, enfin, ont un souci de la liturgie beaucoup plus grand que leurs aînés.
Oui, mais Jérôme, Lebrun.
Moi, je rejoins les deux. C'est-à-dire que je pense que, de fait, la liturgie manifeste aussi l'absence de Dieu. Parce que, de fait...
C'est-à-dire ?
Parce que on a besoin de signes. On a besoin de se rassembler pour vivre, être, célébrer, être vraiment le peuple de Dieu. Voilà. Et en même temps, nous dit la présence de Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et en même temps, il réalise cette promesse à travers ces signes. Mais moi je pense que vraiment aujourd'hui, la liturgie est le mystère de la foi. Mais au sens mystère, pour moi, c'est plus, si vous voulez, moi je suis en Normandie, j'ai pas mal de souvent des nuages qui sont un peu au-dessus de la tête. Et le mystère, c'est le moment où le ciel se déchire et où la lumière arrive. Alors, c'est plus une lumière que quelque chose que je ne comprends pas, mais qui vient dans un monde qui, de fait, est bouché. Il est bouché, notre monde. Et là, on a quelque chose qui nous vient nous apporter autre chose, tout en respectant, si j'ose dire, tout en s'appuyant sur le fait que, précisément, Dieu est absent. D'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que, oui, moi, je ne vois pas Jésus. Moi, je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas le Père. Hein. Mais je crois. Vraiment une convocation à la foi. Et aujourd'hui, ça touche beaucoup, je crois, parce qu'il y a une recherche réelle de foi, enfin, à qui je mets ma confiance.
Mais une question dans ce que vous dites, comment appréhendez-vous le fait que, quand vous dites que Dieu n'est pas là, mais en fait, il est quand même là, puisque dans la messe, il est présent dans l'hostie. Et donc, il est même matériellement présent, si j'ose dire.
Oui, mais matériellement, il ne faut pas aller...
Enfin, je veux dire, il est physiquement présent.
Physiquement, corporellement présent.
Oui, il corporellement
pas, oui. Bien sûr, il est corporellement. Mais avec mes yeux, moi, je vois du pain.
Oui, mais...
Avec mes yeux, je vois du pain. Mais je crois qu'il est là. Et il est là.
Oui.
Et il est parfaitement là. Mais un jour, je le verrai. De mes propres yeux, si j'ose dire, comme dit l'Écriture.
À sa face, oui.
Donc, Giraud, il faut se réapproprier, il faut que les chrétiens prennent conscience de ce trésor dont ils disposent, de cette responsabilité de célébrer à la fois pour eux-mêmes et pour en témoigner au monde.
Alors ça, tous les peuples le disent, et le Concile Vatican II le disait aussi dans Sacrosanctum Concilium, l'importance de la formation à la liturgie, et puis encore le pape François, dans sa lettre Desideri o Desideravi, reparlait vraiment de cette importance de prendre conscience de la beauté de ce mystère qui nous est donné.
Et on en est où de cette prise de conscience ?
Alors, ça dépend du cœur de chacun.
Non, mais sans se cacher derrière son petit doigt, qu'est-ce que... Voilà, comment vous regardez la chose ? Où est-ce qu'on en est ?
Je trouve que les jeunes générations ont davantage conscience de l'importance de la liturgie que peut-être il y a 40 ans, 50 ans, même si je n'étais pas né à l'époque. Mais j'ai l'impression, oui, moi je partage en tout cas cet amour de la liturgie et je vois que mes contemporains l'aiment aussi et sont attentifs à bien célébrer. Et il ne s'agit pas simplement de respecter les rubriques, ce qui est très important et il faut le faire, mais vraiment d'en percevoir le sens et d'entrer dans ce que le pape François décrit dans Desideri o Desideravi, cet émerveillement devant ce mystère qui nous est donné, et de la contemplation et l'adoration, comme vous le disiez si bien, qui revient, ça montre aussi ce désir qu'ont les jeunes générations, cette soif de Dieu, de contempler Dieu tout simplement, de voir sa beauté d'une certaine manière, et de se laisser aussi toucher par lui, s'exposer à son regard.
Je pense qu'il y a. Vous avez dit un mot auquel je suis très sensible et qui me semble vraiment fondamental quand on parle de liturgie, c'est l'émerveillement. Je pense que nous tous, et moi le premier, on est trop blasés. En fait, si on arrivait à prendre la mesure de ce qu'est l'Eucharistie, de Jésus qui est là vraiment présent face à nous, mais on se précipiterait à tout instant pour assister à une messe. Et moi, j'essaie d'aller à la messe en semaine, mais pas tout le temps. Je peux pas. Mais en même temps, je me dis, mais quel chrétien fade tu es. Enfin, l'Eucharistie, c'est tellement... c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est Jésus qui se rend présent devant nous. Et donc, je trouve que le chrétien, je pense que le don de l'émerveillement, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui fait pénétrer dans le cœur de la liturgie. C'est une porte d'entrée.
Pourquoi il y a autant de crispation, de tensions, de difficultés, et encore une fois, bien au-delà de la question de l'usage des missels. On sait que c'est un sujet sensible, même en paroisse, entre générations de prêtres, oui. Vous l'avez dit, Giraud.
Où est-ce qu'on met le bouquet de fleurs?
Monseigneur Lebrun ?
Je pense que ça touche notre cœur, quoi. Ça touche quand même quelque chose, des choses très sensibles chez les uns et les autres. Et je ne saurais pas exactement répondre à votre question. Pourquoi c'est si sensible ? Parce que je pense que c'est plein d'équilibre. Et on est vite déséquilibré. Parce que la formation, c'est se laisser former par la liturgie. Se laisser former par la liturgie. Mais en même temps, la liturgie m'enjoint de parler ou de me taire, de faire une action, de faire une procession, de faire. Et en même temps, je dois accueillir. Ça, c'est un équilibre, je trouve, difficile. Ensuite, il y a un deuxième équilibre qui est très difficile, c'est l'équilibre extérieur-intérieur.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand je prie, il faut que je tourne les pages du missel, et il faut que je trouve la bonne page pour la préface, etc. C'est peut-être pas le moment pour vivre. C'est difficile à ce moment-là de vivre les paroles que je dis. C'est-à-dire unir son cœur. Il y a une belle expression de saint Benoît, mens concordet voci, on va le dire en latin, oui. L'esprit s'accorde à la voix. C'est-à-dire que la liturgie nous propose des textes, des silences, des chants, et on est invité à unir notre cœur au chant. Mais moi, j'arrive à la messe avec mes préoccupations.
Et alors, vous avez trouvé un truc, vous, pour justement unir...
Alors, je pense que, oui, ne pas se crisper, faire avec son tempérament, ne pas contrarier son tempérament à coup de volonté, et le silence. Le silence est toujours un moment très précieux pour moi, pour que, voilà, si je me suis un peu égaré, si je me suis déconnecté, ramener, mais voilà, vivre le moment présent, sans s'inquiéter, voilà.
Avec un peu d'humour aussi sur soi-même, ça fait toujours du bien.
Parce que là, ça touche aussi à la vocation, pour le coup, du moine.
Parce que même les moines sont distraits, hein.
Oui. Oui, je le confesse. Bien volontiers. Mais pour revenir à ce que vous disiez, cette citation de la règle de saint Benoît, mens nostra concordet voci nostri. Benoît XVI commentait justement cette phrase-là en disant que ce qui est très beau dans la liturgie, c'est que Dieu nous donne justement les paroles par lesquelles se forme aussi notre cœur. Et en faisant remarquer d'habitude, c'est le contraire. C'est plutôt notre voix, nos paroles qui s'accordent à notre pensée intérieure. Et là, c'est le contraire. C'est vraiment Dieu qui nous donne les paroles par lesquelles nous allons pouvoir nous adresser à lui et par lesquelles il nous transforme. Et en fait, ça rejoint vraiment toute la logique de l'incarnation rédemptrice. Le Verbe, la parole, se fait chair et retourne à Dieu dans cet exitus reditus avec tous les hommes qu'il a rachetés.
Alain pose une question qui est très simple. Entre la scène des évangiles et la messe d'aujourd'hui, quelle différence ? Pourquoi ne pas avoir conservé la simplicité des débuts ?
Vous voulez que je vous dise
ce
que
je pense ? Je sais pas, vous êtes l'évêque, mais si d'autres sont
inspirés. Vous regardez, oui. Alors, j'espère qu'on garde la simplicité du cœur et le combat spirituel qui était celui de la scène. Là, je pense que dans les choses de fond, il n'y a pas de changement. Et puis, le début, c'est le début. Il y a, pour nous chrétiens, Jésus dans sa présence terrestre, voilà, est vraiment quelque chose qui ne... Voilà, qui ne... Bon. Et il a vécu la scène dans la liturgie. Dans la liturgie synagogale. De la maison. La liturgie juive. Voilà. Qu'il a habité. Qu'il l'a mené à son accomplissement d'une manière totalement surprenante et sans doute et merveilleuse, pour reprendre alors que évidemment le peuple juif attendait autre chose. Ceci est mon corps livré pour vous. Voilà. Prenez et mangez. Voilà. Moi, je suis frappé qu'aujourd'hui, dans nos églises, quelles que soient parfois les manières de vivre la liturgie déficiente, on va dire, ou un peu, etc., c'est un moment de silence incroyable. Nos assemblées se taisent vraiment à ce moment-là. Quelque chose. Donc il y a une vraie continuité. Et puis, voilà, je suis comme prêtre. Enfin, voilà, elle a soufflé sur ses apôtres et puis il a remis, faites ceci en mémoire de moi. Et puis de génération en génération, on a imposé des mains à des hommes, des pauvres bougres, pour qu'ils refassent ce geste et qu'ils continuent à le faire. Moi, je vois plus de continuité. Et mais évidemment, après, c'est l'explosion. Et puis on va de pays en pays et les choses se transforment. On prie plutôt en grec. Il y aura une période assez importante de transformation. On va prier en latin. Et puis, il y a ce autre mouvement qui va être un peu varié. C'est la décentralisation ou la centralisation. Il y aura plusieurs moments dans l'Église où on va être dans des liturgies de plus en plus particulières. Et puis, hop, au 8e siècle, hop, on a un moment où on va... Alors, bien sûr, les moyens de communication, etc., peuvent rentrer en ligne de compte, mais tout de même, il y a eu vraiment des moments. Ce qui veut dire qu'en fait, la liturgie, on va la vivre. Hic et nunc, ici, maintenant, d'une certaine manière, et puis... on sent le besoin de retrouver ce souffle universel, unique, unifiant, de l'Esprit Saint, qui fait que nous prions ensemble sur tout l'univers.
Je ne vais pas, et on ne va pas faire, et je ne vais pas vous demander ici l'histoire de l'évolution de la célébration eucharistique et des différentes parties, et j'en vois d'ailleurs à nos différentes propositions que vous retrouvez sur kto.tv.com. Je voudrais qu'on en arrive à Dom Prosper Guéranger, parce que c'est celui qui a restauré l'ordre bénédictin.
On avance vite.
Voilà, en France, à Solesmes, on est à la 1833-1837, oui. Dans ces années-là, et qui a contribué beaucoup au renouveau liturgique en France. À ce moment-là, quel était le contexte liturgique
Alors, depuis à peu près le XVIIe siècle, on peut dire que chaque diocèse de France avait son propre missel, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Et donc, au début de sa vie de jeune prêtre du diocèse du Mans, Dom Guéranger était un fervent gallican. Et puis, un jour, je crois que c'était à la chapelle de la Visitation du Mans, mais je ne suis pas sûr. Il n'y avait que le missel romain. Il a dû célébrer la messe avec le missel romain. Il l'a fait malgré son peu d'attirance. Et puis là, ça a été vraiment une expérience très forte pour lui. Il a trouvé que dans cette liturgie romaine, il y avait vraiment quelque chose qu'il appelle une onction. Quelque chose qui lui parlait, qui lui montrait vraiment cette présence de l'Église antique, de l'Église si proche des apôtres, et ce qui l'a vraiment converti. Et il a beaucoup milité, beaucoup écrit pour ramener tous les diocèses de France au missel romain, et donc à cette unité liturgique autour du Saint-Père, autour du siège de Rome. Et effectivement, au fur et à mesure des années, à la fin du 19e siècle, tous les diocèses de France avaient retrouvé le missel romain. Et il a beaucoup aussi insisté sur l'importance de la liturgie, avec son ouvrage qui est très connu, L'année liturgique, voilà, où il a vraiment invité tous les fidèles à nourrir leur foi à partir de la liturgie. Et en cela, on peut dire qu'il est un ancêtre du mouvement liturgique, un pionnier. Parce qu'il a vraiment vu dans la liturgie, non pas seulement un ensemble de rubriques à respecter, même s'il faut le faire, évidemment, mais vraiment une nourriture spirituelle, quelque chose où l'âme est nourrie au cours de toute l'année liturgique. Et donc il y a un cycle qui nous fait vraiment vivre avec Jésus tout au long de cette année, depuis l'attente pendant tout l'Ancien Testament, pendant l'Avent, sa naissance, les différents événements de sa vie, sa mort et sa résurrection, son ascension de la Pentecôte, et puis l'attente de sa venue dans la gloire.
Est-ce qu'on peut dire... à partir de que c'est un peu à partir de là qu'il y a une sorte de ressourcement auprès de la liturgie romaine, y compris dans ses sources.
Oui. Donc Guéranger était, on le présente souvent comme un nostalgique du Moyen-Âge, mais il était beaucoup plus nostalgique de l'Antiquité, en fait. Mm-hmm. Et il avait vraiment son amour pour Sainte-Cécile, notamment. Il a fondé le monastère démonial de Sainte-Cécile de Solesmes, justement parce qu'il aimait vraiment cette Antiquité de Rome.
C'est le début d'un grand mouvement de ressourcement auprès des pères de l'Église, enfin de l'époque des pères de l'Église, de retrouver, et ça coïncide aussi avec les moyens, je veux dire, paléographiques et autres, d'aller rechercher des manuscrits, des textes anciens.
Il faut dire que Dom Guéranger, à un moment, avait été malade pendant ses années séminaires, et il avait lu toute la patrologie. C'était vraiment un grand érudit, ça ne m'est pas donné à tout le monde. Donc il avait une culture des pères de l'Église extrêmement forte et de toute l'histoire de l'Église qu'il connaissait. Plus qu'un génie théologique, c'était vraiment quelqu'un qui a su mettre à disposition des fidèles toute l'histoire de l'Église, toute cette richesse de l'âge des pères.
Et il y a un lien avec... pardon, Christophe.
Non, ce qui est assez amusant dans cette affaire-là, enfin amusant, c'est que, en fait, donc, l'Église de France appliquera le Concile de Trente, en fait, qu'à la fin du XIXe siècle. Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est que c'est Saint Pie V, avec sa réforme liturgique au XVIe siècle, qui avait voulu, justement, voyant toute la variété des rites qui étaient, selon lui, sans doute trop nombreuses dans l'Église, a voulu unifier la liturgie latine en imposant partout le rite romain, puisqu'il existait déjà depuis longtemps, c'était un rite vénérable, en laissant par contre partout où les liturgies avaient plus de 200 ans d'âge la possibilité de conserver ces liturgies. Et en fait, la France a résisté. D'abord, il y avait un certain nombre de diocèses sans doute qui avaient des liturgies qui pouvaient se prévaloir de plus de 200 ans d'ancienneté, mais je pense que c'était loin d'être le cas de tous les diocèses de France. Et en fait, il y a eu quand même une résistance extrêmement forte du gallicanisme pour ne pas appliquer le missel romain dans le royaume de France. Et il faudra attendre donc presque 4 siècles pour que finalement la France applique la réforme liturgique voulue par Saint Pie V.
Quelle est la contribution de la France justement à ce mouvement liturgique que vous avez de Don Guéranger, et quel regard vous portez là-dessus, Don Giraud ?
De la France ou de...
Oui, que la France a apporté... à ce mouvement liturgique.
Bonne question.
Ouais, on a des grands savants, hein, je veux dire, liturgiques, qui ont proposé un certain nombre de ressourcements assez forts. Moi, mon maître Pierre Marigy, qui j'ai fait ma thèse, était jeune encore, expert à l'époque du Concile, et a proposé un certain nombre de ressourcements. Mais c'est très... Il faut citer aussi Odon Cazel, enfin, avec du côté de Trèves, du côté de la Germanie.
Don Lambert Baudouin, qui était un peu le...
Don Lambert Baudouin en Belgique, ouais. qui sont des grands artisans de tout ce mouvement qui a pris, à partir de Pie XII, aussi une forme un peu particulière. Oui. En 46, on a pratiquement un programme, en 1946, par Pie XII, d'une réforme liturgique. Qui s'est faite en partie, la plus célèbre, c'est la veillée pascale, de la veillée pascale par le pape XII.
Puis il y a eu Sacrosanctum Concilium, que vous avez déjà mentionné et cité, Don Giraud, qui, pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, qu'est-ce qu'apporte cette constitution conciliaire, qu'est-ce que cela transforme?
Peut-être une nouvelle prise de conscience que la liturgie est l'œuvre de tout le peuple de Dieu, de toute l'Église, donc que les fidèles ont à exercer aussi leur sacerdoce baptismal dans cette œuvre liturgique, et l'importance vraiment que la liturgie ne soit pas seulement l'affaire du prêtre. Autrefois, paraît-il, puisque je n'ai pas connu, mais le prêtre devait absolument prononcer toutes les paroles. Je ne sais pas si c'est ça. Et donc dans la réforme liturgique et enfin le mouvement liturgique, on a invité aussi à ce que chacun fasse la partie qui lui est propre. Donc le prêtre dit quelque chose, mais les fidèles doivent répondre aussi. Le lecteur lit la lecture. Avant, c'était le prêtre qui lisait vraiment toutes les lectures. Maintenant, le diacre lit l'évangile, mais... Donc cette prise de conscience vraiment de cette œuvre commune de toute l'Église. Et puis aussi, alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis frappé par l'importance du centrage sur le mystère pascal. Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant ou pas trop, mais en tout cas, dans Sacrosanctum Concilium, je suis très frappé de voir à quel point le mystère pascal est au centre. Et on dit que c'est vraiment le mystère pascal qui nous est rendu présent dans l'Eucharistie, dans la liturgie, qui est vraiment l'œuvre du Christ. Et puis, donc, ce qui découle, par un exemple, c'est cette revalorisation du dimanche, voilà, où le mystère de Pâques nous est rendu présent chaque semaine, tous les 8 jours, voilà, en lui donnant vraiment la préscience sur beaucoup de fêtes. Il y a peu de fêtes liturgiques ont la préférence sur le dimanche. On a quelques-unes, les solennités, mais moins qu'avant, paraît-il.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'attachement des plus jeunes générations, prêtres et laïcs, à la beauté de la liturgie, à la manière de célébrer, à l'ars célébrandi. Comment vous l'expliquez 50 ans, 60 ans après la fin du concile? Et quelles sont les tonalités? Qu'est-ce qui a évolué depuis? Mais ça, on pourra en discuter ensemble.
Il est possible que les nouvelles générations n'aient pas connu ce qui... Enfin, nouvelles générations, de fait, n'ont pas connu ce qui se faisait avant le concile. Donc, redécouvrent quelque chose avec un regard nouveau et n'ont pas forcément été usés, peut-être par un désir de changement, de renouvellement. Et ils voient davantage, je pense, l'intérêt de cette beauté de la liturgie qui ne leur paraît pas comme un cadre, un carcan dont il faudrait essayer de se libérer. Au contraire, ils en voient vraiment davantage la beauté. Et ils ont peut-être connu des liturgies qui se tenaient moins. Et ils ont envie aussi de quelque chose qui les nourrisse davantage.
Christophe ?
Oui, sur ce que vous avez dit sur sur Sacrosanctum Concilium, je trouve que c'est très beau. Et je m'y retrouve tout à fait, c'est très bien. Ce qui était... quand il y a eu le concile, tous les évêques, tous les pères conciliaires étaient unanimes, y compris d'ailleurs la branche conservatrice, pour dire qu'il fallait faire une réforme de la liturgie. Justement à cause des certains aspects que vous avez dit, sur l'aspect des doublons, où par exemple le prêtre disait son Gloria à voix basse et ensuite allait s'asseoir pendant que la chorale et l'assemblée continuent à chanter cette prière. Pardon. Il y avait donc quelques petites incohérences à corriger. Le concile a insisté aussi sur la notion de participation. Il a aussi dit que le latin grégorien était la langue propre et le chant propre de la liturgie. Enfin, il y avait tout un programme qui a été établi par le concile et que Paul VI, Sacrosanctum Concilium, a créé le concilium début de 1964 pour mettre en œuvre les réformes voulue par les pères conciliaires à Vatican II. Et donc, ce concilium a travaillé avec beaucoup d'efficacité et il a pondu un certain nombre de textes. Je ne vais pas entrer dans le détail, ce serait un peu fastidieux, mais le concilium est arrivé en 1965 à ce qu'on a appelé le missel du 65, qui en fait correspondait, d'après un grand nombre de spécialistes, à toutes les volontés du concile Vatican II sur la réforme liturgique. Et cela étant, pour des raisons assez complexe que je ne vais pas développer ici. Puis Paul VI a estimé qu'il fallait aller plus loin, donc il a continué la réforme au-delà de ce missel pour aller jusqu'au missel que nous connaissons, qui a été promulgué donc en 1969. Et la réforme telle qu'elle a été appliquée à ce moment-là a été faite dans un certain nombre de pays de façon assez brutale, avec un état d'esprit qui était un peu quand même celle de la table rase du passé. Et c'est une des raisons qui explique en fait la crise liturgique qui s'est produite dans les années qui ont suivi. Alors que assez paradoxalement,
les plus jeunes générations, pour le coup, n'ont pas connu tout ça. Vous le disiez aussi.
Non, ça, les jeunes générations, ne connaissent absolument pas ça. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est peut-être heureux. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, quand on voit, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, je fais qu'évoquer la chose, mais quand on voit les querelles liturgiques aujourd'hui, quand vous parlez à des jeunes, ils n'ont pas eu tous les blocages de leurs aînés. Et en fait, ils s'en moquent. Je veux dire, ils ne sont pas du tout dans l'idéologie, si vous voulez, de la liturgie. Eux, ce qu'ils recherchent généralement, c'est une belle liturgie, une liturgie sacrée. Ils vont aller à une messe de Paul VI comme à une messe de Saint Pie V. Du moment que la liturgie est belle pour eux, ils ne vont pas du tout idéologiser ou dogmatiser quelque chose derrière. On sera plus au niveau du ressenti de quelque chose qu'ils vivent pour leur foi. Et le fait qu'il y ait justement des jeunes qui arrivent à dépasser un certain nombre de querelles qui sont quand même des querelles en soi importantes, parce qu'il ne faut pas nier l'importance des questions doctrinales qu'il peut y avoir derrière. Mais enfin, il est temps de prendre un peu de hauteur et de mettre de la paix dans toutes ces choses-là.
Monsieur Lebrun.
Et en fait, il faut vraiment accueillir ce regard neuf hein, de générations qui n'ont pas connu le passé, etc. Mais en même temps, à ne pas... oublier qu'ils sont aussi formatés aussi dans un contexte qui n'est pas forcément chrétien. Hein, et leur demande a besoin aussi d'être évangélisée. d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous êtes frappé comme moi par les catéchumènes ou ceux qui sont venus pour faire le carême, etc. C'était de nous dire, mais alors, est-ce que je fais bien mon carême? Bon. Le problème, c'est qu'ils connaissaient pas le Christ. C'est qu'ils ont été sur Internet, puis qu'ils ont vu qu'il fallait jeûner tel jour, qu'on pouvait faire ci, etc. Mais le lien entre le jeûne et la pénitence et le Christ était encore extrêmement distendu. Quoi.
Parce que c'est un chemin.
De fait, il faut accueillir ce regard, cette demande qui a un vrai sens. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vraiment une recherche profonde qui n'est pas superficielle et qui est une recherche de salut, au fond, hein, d'être sauvé. Hein.
Mais alors, du coup, c'est quoi les écueils?
Il ne faut pas les prendre au premier. Enfin, il faut avancer. Quoi, hein.
C'est quoi les écueils et les opportunités alors de la
période?
De
tomber dans un subjectivisme un peu trop facile. Et donc, c'est important, étant donné que la liturgie est vraiment l'œuvre du Christ tout entier, tête et corps, l'œuvre de l'Église universelle, ce n'est pas quelque chose que je fabrique à ma manière. Et ce n'est pas une auto-célébration, disait Benoît XVI. Et on reçoit vraiment cette liturgie. Chaque liturgie de n'importe quelle petite église, quelque petite paroisse, n'est pas sa propre liturgie, c'est la liturgie de l'Église tout entière, du corps du Christ.
Et du coup, si j'extrapole, ça n'est pas non plus celle que je choisis, entre guillemets.
Exactement. Voilà, et cette liturgie, je la reçois de l'Église, j'essaie de la célébrer comme l'Église veut qu'elle soit célébrée.
Et ça touche pour le coup, parce que vous l'avez dit aussi, à la formation. Mais du coup, quel est le degré de formation? Parfois, on a une impression d'analphabétisme liturgique, au sens où on n'aurait pas appris, où on ne comprend pas. Vous avez parlé du latin, il y a eu des questions qui nous ont été posées sur la question du latin, pour dire est-ce que c'est la langue sacrée, on pourrait passer à autre chose, mais on sent bien que le rapport concret n'est pas forcément reçu et intégré.
Il y a des formes variées, concrètes, variées. Parce que là, on parle de la messe, mais on pourrait parler des funérailles, par exemple, qui aujourd'hui en France est vécu différemment. Dans le Lyonnais, on n'a jamais utilisé l'encens pour les funérailles. En Seine-Saint-Denis, car à moi, si je ne prenais pas l'encens pour les funérailles, on m'aurait dit, mais vous avez mal enterré ma maman. Hein.
Je veux dire, c'est un beau rite.
Et c'est un beau rite. Oui, mais il y a des lieux où en Allemagne, les corps ne passent pas à l'église. Dans une grande partie de la Germanie, les corps ne passent jamais à l'église.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers ça?
Je veux dire qu'il y a des choses différentes. Mais pour moi, le grand défi, c'est que nos cœurs rejoignent le cœur du Christ à travers cette grande prière qui nous est proposée, ces actions, ces chants, cet ordonnancement, qu'on ne s'arrête pas aux médiations en les choisissant éventuellement parce qu'il va me faire plaisir, etc., mais qu'on aille, qu'on laisse à la fois le cœur de Jésus venir jusqu'à dans mon cœur, jusqu'au fond, à travers la liturgie de la parole de Dieu, à travers des chants, à travers l'ordonnancement, à travers une procession. Tiens, il m'arrive encore, hein, il m'arrive souvent même, de recevoir une prière de la liturgie que j'avais dit 10 fois sans qu'elle touche mon cœur. Et aujourd'hui, elle touche mon cœur. Moi, je le ferai après aussi pour la parole de Dieu dont on a peu parlé et qui est aujourd'hui installée, j'ai envie de dire, dans toutes les actions liturgiques comme un moment important. Je prépare mon homélie, je fais ça, etc. Et si c'est moi qui proclame l'évangile, il y a une autre saveur, il y a quelque chose qui m'arrive dans mon cœur. Et quand je l'entends, il y a une lumière nouvelle qui m'arrive au cours de la célébration. C'est ça, moi, le grand défi. Et pour ça, la formation, je trouve, c'est aussi c'est la foi, hein, c'est la formation de la foi. Et se laisser former par la prière, c'est découvrir qui est le Christ.
Il y a plusieurs questions sur la musique liturgique, et on sait que dans votre congrégation, on est très sensible, et vous avez beaucoup contribué au renouveau du chant grégorien. le regret d'un manque de moyens de collaboration avec les conservatoires, par exemple, nous dit un téléspectateur, le fait qu'un orgue sur trois soit abandonné dans les églises, selon les chiffres de la Fondation du patrimoine, que les questionnaires synodaux ont fait abstraction de ces questions. Raphaël écrit que les commissions diocésaines de pastorale liturgique sont trop moribondes. N'y aurait-il pas un nouveau souffle à trouver? Il suggère de faire de 2026 l'année de la musique liturgique. Autre question, Marie, chef de chœur, évoque le conflit de sensibilité de génération. Dans notre paroisse, je la cite, s'impose un mouvement de jeunes qui pratiquent un show évangélique à l'américaine qui déconcerte les aînés et la chorale de 30 personnes qui travaillent pourtant toutes les semaines soucieuses de qualité et de rigueur musicale. Pardon, parce que là vous nous parliez de la beauté, de la grandeur de la liturgie, on est ramené un peu sur les relations, mais c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire, Don Giraud? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Marie, à Raphaël?
Alors, en tout cas sur la musique liturgique, Don Guéranger a vraiment envoyé ses moines un peu partout en Europe, dans les bibliothèques, pour aller retrouver les manuscrits du chant tel qu'il était chanté autrefois. Donc, c'est comme ça qu'est rené le chant grégorien, qui avait été composé à peu près sous Charlemagne. Et donc, il y a eu ensuite un engouement pour ce chant grégorien, ce chant vraiment liturgique, notamment sous Saint Pie X. Et puis, le Concile Vatican II a été le premier concile à parler du chant grégorien en disant, en définissant vraiment comme le chant propre de l'Église romaine, en disant qu'en toute liturgie, ce chant grégorien doit avoir la première place. Ce qui ne veut pas dire qu'il a une place exclusive, parce que juste après, le concile dit aussi que l'Église reconnaît ici comme son chant la polyphonie, qui est très importante. Mais voilà, c'est vraiment des choses complémentaires.
Et du coup, à Marie, qu'est-ce que vous lui dites, là, qui est déroutée par les jeunes qui viennent?
Et si on cherchait une musique de qualité qui porte vers Dieu?
Oui. Sur les bras, brièvement.
Alors, moi, j'ai eu une très belle expérience dans ma cathédrale. J'ai eu une maîtrise Saint-Évode qui me fait découvrir aussi que participer, c'est aussi écouter. Oui, il y a des pièces que je ne peux pas chanter moi-même, mais que j'écoute. Et je pense que c'est vraiment aussi une participation. C'est un constat, mais on est un peu pour l'instant encore un peuple un peu dispersé, quoi. Et le Seigneur veut nous rassembler. Donc il y a du chemin à faire. Et après tout, je pense qu'il faut faire attention à la prière liturgique. Il faut qu'elle soit très belle, très etc. Mais est-ce qu'il faut qu'elle soit léchée? Il faut qu'on prie avec notre cœur. Tous les moines ne chantent pas à la perfection le chant grégorien. Je ne vous en veux pas. Hein.
Non, non.
Mais
si tout le monde le chantait comme ça, ce serait déjà pas mal. Hein.
Ah, bah, oui, non, c'est vrai, mais etc. Saint-Vendry, dans le diocèse de Rouen. Bon. Si j'ai un bouche un peu de travers et que je sois là, quand je vais célébrer aussi dans une maison avec des handicapés, avec des personnes en difficulté, la beauté du chant est donnée par la beauté du cœur.
Oui. En tout cas, il y aurait, je pense, une chose qu'on pourrait faire dans les directives, c'est déjà quand même essayer de remettre à l'honneur le chant grégorien, parce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Les paroisses où, alors qu'on pourrait, on peut très bien chanter le kyrielle grégorien dans n'importe quelle paroisse. Hein. Enfin, dès lors où il y a une chorale ou un chantre qui est capable, évidemment, de mener ce chant, parce qu'il ne s'agit pas de le massacrer. Mais aujourd'hui, on ne perçoit aucune, directive pour favoriser ce chant dont le Concile a pourtant dit qu'il devait rester le chant propre de l'Église, enfin la liturgie. Donc je trouve ça dommage, parce que c'est quand même un patrimoine extraordinaire, c'est quand même le plus beau des chants en termes, je trouve, de méditation et de prière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas inventer des choses et mettre des choses plus modernes. C'est pas exclusif, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il faudrait quand même, ce serait bien de penser à lui redonner la première place qui était celle que voulaient les pères conciliaires.
Bon, c'était important qu'on parle du chant, mais on arrive au terme de cette émission et je voudrais vous entendre peut-être un dernier mot, un mot de conclusion, un mot de perspective, parce que en France et dans de nombreux pays, il a été vécu ces années Covid où peut-être des chrétiens qui participaient à l'Eucharistie le dimanche, peut-être ont fait l'expérience que, c'est en tout cas ce qu'on en a entendu, l'Eucharistie n'était pas si importante dans leur vie, ils ont disparu sur la pointe des pieds. Et à côté de ça, et on le disait au début de cette émission, des pré-catéchumènes, ou en tout cas des personnes curieuses, sont attirées. C'est bien là aussi, au moment de l'Eucharistie, qu'elles viennent pour participer, pour voir, pour goûter, pour se mettre en route. Pour vous, et en un mot, c'est quoi votre espérance et un enjeu qui vous semble vraiment important, Don Giraud, dans cette période que nous vivons?
Que la liturgie nous conduise toujours plus à Dieu. Vraiment, la liturgie est prière. Et encore une fois, même si la liturgie demeurera toujours, puisque dans l'Apocalypse, c'est une grande liturgie, les sacrements et les signes tels qu'on les connaît ne seront plus les mêmes, en tout cas dans l'éternité. Et ça nous conduire à Dieu, tourner notre cœur vers Dieu.
Christophe.
Écoutez, moi j'aspire à ce que la liturgie soit effectivement, tienne la place qu'elle doit tenir dans la vie de tout chrétien, qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est un don extraordinaire devant lequel je trouve on devrait s'émerveiller, et je souhaite qu'elle soit un instrument de paix et qu'on puisse parler liturgie en chrétien, dans la charité, avant tout pour le plus grand bien des âmes.
Monseigneur Lebras.
J'aurais envie de dire aux téléspectateurs, vous avez tous votre place dans la liturgie. Si vous n'y venez pas, il reste une chaise pour vous. Et moi, je prie pour les chaises vides. Je veux dire, pour ceux qui ne sont pas là dans la liturgie. Et ça me réjouit. Je ne suis pas payé au nombre, mais voilà. Je pense que c'est l'appel du cœur pour prier pour tous ceux qui sont là et pas là. Mais je dis à ceux qui ne sont pas là, vous avez votre place.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur Lebrun, dont Jean-Vincent Giraud, Christophe Geffroy, je montre la revue dont vous êtes le rédacteur en chef, La Nef, avec ce mois-ci, Léon XIV, un pape pour l'Église. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je remercie la rédaction. Merci aussi à Philippine de Saint-Pierre pour la préparation de cette émission. Merci à toute l'équipe mobilisée en régie et merci bien sûr à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site. KTOTV.com. À très bientôt.
Écoutez KTO Radio.